Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans vos projets de vie avec ses produits d'épargne.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'accouchement tourne au cauchemar, cela porte un nom, la fistule obstétricale. Mais pas question de détourner le regard, de manifester une réaction de dégoût face à ces graves complications de la grossesse, non. Mais bien d'informer, de décrire ce qui peut être fait pour éviter à celles qui se prédestinaient à devenir mères, non seulement dans la plupart des cas qui ont perdu l'enfant, mais aussi à cause d'un effort trop long, de l'expulsion impossible du bébé, ces femmes qui souffrent au-delà du supportable pendant l'accouchement, ce cauchemar qui se prolonge parce qu'ensuite, la femme va subir dans son intimité les séquelles de cette épreuve. Le blocage prolongé du fœtus va abîmer les tissus, rendre la femme incontinente, malodorante, un calvaire physique qui se traduit encore par l'exclusion sociale de la patiente. Cette tragédie, plus de 2 millions, hein, au moins 2 millions de femmes la portent en elles, des femmes qui vivent essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Les fistules obstétricales ont en effet disparu des pays développés. Elles sont un marqueur cruel de la pauvreté, une terrible illustration des conséquences du manque d'accès aux services de santé, à l'information, à la planification familiale comme à la formation des soignants. D'où l'importance d'investir pour la santé des femmes, de faire passer les messages de prévention, d'où l'importance aussi d'améliorer la prise en charge des femmes concernées, informer sur les possibilités d'intervention, améliorer l'accès à la chirurgie réparatrice, des questions au cœur de notre émission du jour. La fistule obstétricale, entre 50 et 100 000 jeunes accouchés en seraient encore victimes chaque année dans le monde. Trois spécialistes en parlent avec nous aujourd'hui. Avec nous en studio, docteur Jean-Charles Halimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urologue à Toulon, membre de la fondation Mère du Monde en Santé. Et vous nous expliquerez, docteur, la nature des missions que mène cette ONG sur le terrain. Au Burkina Faso, on va retrouver le docteur Dieudonné Ouédraogo, médecin gynécologue et obstétricien, responsable du pôle mère-enfant de l'hôpital Chifra, chirurgien de la fistule obstétricale. Intervenir, y compris en zone reculée, c'est ce que fait pour MSF le docteur Kadri Alzouma, obstétricien pour Médecins Sans Frontières à l'hôpital général de Jaoun dans l'état nigérian de Jigawa. Et puis en fin d'émission, on va parler de la santé des yeux face au risque d'épidémie de myopie associée à l'usage excessif des écrans, une réalité en passe de devenir un véritable enjeu de santé publique que l'on va évoquer avec le docteur Gilles Martin, ophtalmologiste à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.
Priorité santé sur RFI.
Surtout ne pas détourner les yeux, mais bien prendre conscience de l'importance de la campagne pour l'élimination de la fistule obstétricale. Cet objectif, il passe par la prévention comme par la réparation. Deux sujets donc au cœur de Priorité Santé. Mais comme souvent dans notre émission, on va commencer par l'explication de départ. On pose les bases parce que c'est vrai, cette séquelle de l'accouchement difficile, eh bien, elle a disparu dans un pays comme la France, dans la plupart des pays dits riches ou développés. Et aujourd'hui, docteur Jean-Charles Halimi, où se trouvent, où vivent les femmes concernées, menacées par ces complications, on va le voir, complications urogynécologiques?
Alors, les patientes qui sont intéressées par ce processus dramatique et la fistule obstétricale sont dans des régions reculées, toujours loin des grands centres, dans des endroits où il y a peu de structures d'accueil et peu de structures de soins, avec aussi un état routier qui n'est pas bon, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, de pluie importante, les véhicules ne peuvent pas passer. Et lorsqu'il y a un accouchement qui pose problème et qui n'a pas eu de prévention de cet accouchement, la patiente va essayer de retrouver un centre de santé et ne pas le trouver souvent, et donc être obligée d'accoucher sur place avec les moyens du bord. Chez certaines femmes qui ont un bassin qui est étroit, qui sont jeunes, qui n'ont pas de structure d'accès aux soins, l'accouchement ne va pas se produire. L'enfant va rester bloqué au niveau du pelvis, ce qu'on appelle le pelvis, c'est-à-dire la sortie gynécologique de l'enfant. Et la tête du fœtus va rester bloquée là, plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'enfant va mourir dans 90% des cas. Et il va rester à comprimer la vessie et le rectum. La vessie est un organe qui se remplit, donc la pression va augmenter dans la vessie, la tête du fœtus va écraser la vessie et le sang ne va plus arriver au niveau de la partie qui est comprimée. Ça va entraîner une nécrose, c'est-à-dire le tissu va disparaître et ça va faire un trou entre la vessie et le vagin. Ça, c'est la complication la plus fréquente. Cette complication peut aussi intéresser le rectum et entraîner des fistules. Alors là, avec des selles qui sont en permanence évacuées par le vagin, donc c'est encore pire, c'est double punition. La fistule est une complication malheureusement qui perdure. Il y a peu de guérison spontanée. Donc à partir de ce moment-là, il se constitue un écoulement permanent d'urine 24 heures sur 24, jour et nuit, qui exclut complètement la patiente de son milieu environnemental, puisqu'elle sent mauvais, elle est exclue par les autres et se retrouve souvent isolée. Et comme vous avez dit tout à l'heure, dans une situation où elle est ostracisée. Et voilà le problème tel qu'il se produit.
Ça veut dire que, on donnera tout à l'heure la parole à vos confrères obstétriciens sur ce point précis, ce sont des femmes pour qui il y aurait vraiment eu une indication de césarienne. C'est-à-dire, alors, non pas une naissance par voie basse, mais une naissance avec une intervention chirurgicale.
Très probablement. C'est donc l'intérêt des consultations prénatales qui permet de déterminer s'il faut ou non prévoir une césarienne. Et bien entendu, s'il n'y a pas eu de consultation prénatale, ça c'est un phénomène qui ne peut pas être prévu à l'avance. Et donc on va se retrouver devant le fait accompli.
Parce que pour celles qui ont accouché, elles visualisent bien ce qui se passe et qu'il n'y a pas la dilatation suffisante pour qu'il y ait l'expulsion et la délivrance.
C'est ça.
Alors, on a bien compris, vous êtes urologue, il y a une autre spécialité qui est engagée, c'est la gynécologie, parce que tout ce qui se passe dans ce drame, ça se passe au carrefour de cette intimité féminine. On sait bien que dans le bas-ventre, on a en même temps la fonction urinaire, fécale, sexuelle, gynécologique, bref, beaucoup de choses se passent dans cet endroit-là, et on le sait, c'est très complexe. Et cette expulsion qui prend tellement de temps, tellement d'efforts. On peut aussi parler, j'imagine, des souffrances au cours de cette expulsion. Et puis, il y a après le temps qui passe, l'installation. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, vous, quand vous êtes amené à intervenir sur ces femmes, sur ces patientes, un certain temps, c'est déjà passé.
Exactement. Alors, le temps peut être court, quelques mois, mais ce n'est pas la majorité des cas. La majorité des cas sont des fistules assez anciennes qui ont soit déjà été opérés et qui ont récidivé, ce qui est de plus en plus fréquent, soit qui sont des primo, ce qu'on appelle des primo-fistules, qui sont les plus faciles à réparer parce qu'elles ont des tissus qui sont encore sains. Et il faut également, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus en Afrique, il y a quand même des évolutions nettes sur le plan de la gynécologie de l'obstétrique et on fait de plus en plus de césariennes. Ces césariennes sont faites bien souvent dans des conditions qui sont un peu précaires aussi. Mmh. Et on a maintenant l'apparition de fistules qui sont des fistules dites iatrogènes, qui sont dues à la césarienne. C'est-à-dire que la césarienne, c'est un acte qui peut être complexe. Mmh. Et on peut faire une brèche chirurgicale lors de la césarienne et entraîner ce qu'on appelle des fistules post-césariennes dites iatrogènes, qui sont maintenant relativement fréquentes dans la population que l'on voit lorsqu'on vient de traiter des fistules en Afrique.
Donc vous intervenez aussi avant sur ce terrain-là.
Oui, c'est nouveau, ça a quelques années, et bon, c'est intéressant parce que c'est plus facile à traiter, donc on a des très bons résultats là-dessus. Mais c'est un progrès qui entraîne d'autres complications, qui sont moins graves,
beaucoup
moins
conséquences. Graves. Docteur Jean-Charles Halimi, tout à l'heure, on a évoqué la localisation géographique des femmes, on va dire dans un certain nombre de pays du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique, avec les exemples que l'on va aborder aujourd'hui dans cette émission. Une invalidité qui a des conséquences sociales très importantes, mais c'est aussi un marqueur de l'accès aux soins, du sous-développement, on va dire, quand un pays est pauvre, ça se voit peut-être d'abord et surtout quand on visite les hôpitaux.
Alors, on a fait une étude où on compare le produit intérieur brut et le revenu par habitant par rapport au nombre de fistules, et c'est un marqueur parfait. Plus le revenu par habitant est faible, plus il y a des fistules. Ça, c'est, il y a des cartes géographiques qui montrent ça de manière très claire. Et donc, ce qui veut dire que ce que le pays est pauvre, que le revenu par habitant est pauvre, les structures de soins sont beaucoup moins importantes et il y a donc beaucoup plus de complications dû à l'accouchement.
Alors vous, quand vous allez sur place, il y a des équipes de médecins internationaux, il y a aussi des équipes locales qui travaillent. On va donner la parole à certains d'entre eux tout à l'heure. Et c'est essentiel, justement, cette implication des spécialistes locaux pour venir en aide à ces femmes et pour venir en aide à la communauté aussi tout entière. Comment ça se passe du côté des pouvoirs publics? Ça se passe plutôt bien, l'accueil de cette intervention qui est quand même, on va le dire, sur quelque chose de très douloureux, parce que accepter de prendre conscience du problème, c'est aussi accepter de reconnaître une certaine indigence en matière de prise en charge des femmes et de prise en charge de l'accouchement.
Oui. Oui, il est certain que c'est accepter que les fistules existent et qu'on peut les prendre en charge et qu'on peut venir de l'extérieur pour venir les prendre en charge. C'est évidemment, je pense que psychologiquement, c'est pas évident. Mais de manière générale, on est très bien reçus. C'est un peu compliqué au départ parce qu'il y a beaucoup de formalités à faire, parce qu'il faut qu'on arrive, il faut qu'on soit parfait. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de venir en Afrique pour faire du tourisme. On est là pour une équipe de chirurgicale extrêmement
efficace.
Performante, parce que il faut savoir que c'est une chirurgie très difficile.
Mais vous les faites quand même, ces opérations chirurgicales, dans des centres hospitaliers? Vous n'allez pas vous faites de la chirurgie mobile avancée dans les villages directement?
Non. En fait, on va surtout dans les structures d'hôpitaux périphériques.
Périphériques.
Qui nous donnent parce que c'est là que se trouvent les fissures, en fait. Qui nous donnent un bloc opératoire correct. Mais nous, généralement, nos structures, en tous les cas, la structure dont je fais partie, nous avons tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on amène tout le matériel. On vient de A jusqu'à Z, les médicaments, les boîtes opératoires, tout. Donc on vient avec des containers, on n'arrive pas les mains vides, les mains dans les poches,
vous
ça c'est
équipé.
Sûr. On a quelques difficultés souvent à la frontière, ça nous est arrivé récemment au Rwanda, où il faut attendre beaucoup parce que tout est inspecté, ce qui est tout à fait logique, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arriver avec du matos qui n'est pas ancien, enfin qui n'est pas récent. Donc il y a un très bon contrôle qui est fait, mais les autorités, de manière générale, sont évidemment favorable parce qu'on vient de traiter les fissules, surtout les complexes qui demandent une spécificité chirurgicale importante, et on est très peu à être formé à cette chirurgie.
Quand on intervient sur une femme, l'équipe, elle est constituée de combien de personnes?
Alors, lorsqu'on fait une mission, on part pour 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce qu'il nous faut une semaine opératoire. Au-delà, on est crevé parce qu'on opère du matin au soir.
Ça veut dire quoi, une quinzaine de femmes par jour?
Voilà. Non.
Non,
non, non. Alors, quand on arrive, si vous voulez, on arrive, on consulte. On fait le point parce que les malades ont déjà été informés, récupérés, parce qu'il faut aller chercher, elles ne viennent pas toutes seules en consultation. On consulte pour savoir si c'est bien difficile parce qu'il y a d'autres pathologies associées. Et après, on établit un programme opératoire. On va opérer en moyenne une quinzaine de patientes par session. Et pas par jour, par session.
Ouais.
Parce qu'une fistule simple, c'est 1 heure, 2 heures. Une fistule complexe, ça peut être à 5 heures et au-delà.
C'est énorme.
Donc, c'est les reconstructions. Ce sont les reconstructions complexes qui demandent qu'on ne puisse pas faire ça à la chaîne, mais qu'on prenne le temps pour pas qu'on diminue la possibilité de guérison.
Avec en post-opératoire, un séjour, comment ça se passe? Les femmes retournent dans la communauté? C'est comment?
Alors, les pays, enfin en général, c'est assez bien organisé parce qu'il y a un amont, évidemment, et un aval. L'amont, c'est le recrutement. Le recrutement, il y a un maillage qui est en général bien fait, où il y a des gens sur place, dans les villages, qui sont capables d'aller voir les patients, ils savent où ils sont, de les convaincre, parce qu'il faut les convaincre aussi, ce qui n'est pas toujours facile, et de les faire venir dans un centre hospitalier. Et donc ça, c'est un travail d'amont qui est très important, et on s'y prend environ 3 mois avant. Et lorsqu'on arrive, les patientes sont là. Elles sont hospitalisées. Alors, on loue. Alors, soit l'établissement peut nous fournir des lits, soit on peut les acheter, c'est-à-dire payer un droit d'hospitalisation par jour. Et elles restent hospitalisées le temps qu'il faut, en général une petite semaine. Au bout d'une semaine, nous, on est partisans d'être rapides pour enlever la sonde vésicale, parce qu'il y a une sonde vésicale après la chirurgie. Et après une semaine, si la fistule est guérie, c'est immédiat. La miction reprend, il n'y a plus de fuite et la patiente repart chez elle immédiatement. C'est assez magique, ce côté one shot du traitement de la fistule.
Et précisément, elles s'y attendent, ces femmes, à ce que la réparation, on va dire, fonctionne aussi bien, soit aussi efficace, et finalement qu'elles retrouvent cette intégrité physique après parfois des mois et des années de souffrance et de salissure?
Je dirais oui. Enfin, quand vous arrivez le premier jour, vous avez des visages qui sont fermés. Ça, c'est quelque chose qui est frappant. Et puis, la confiance est établie, la consultation est rassurante. On a des interprètes parce qu'évidemment, il y a beaucoup de langues. Et ça se passe très bien. Les femmes sont inquiètes, mais rassurées en même temps. Quand elles arrivent au bloc opératoire, elles sont, je dirais, la plupart du temps, inquiète. Mmh. Mais après l'opération...
On l'est tous quand on va se faire opérer, c'est normal.
Mais là, c'est... Bon, après, il y a un tel vécu de cette fissure depuis des années qu'on attend un peu comme un miracle, en quelque sorte. Mmh. Et lorsque l'opération est terminée, qu'il y a une poche, une sonde... Et puis les autres patientes qui sont à côté, qui se sont fait opérer également, ça parle beaucoup entre elles. Mmh. Les femmes se racontent plein de choses et... En post-opératoire, on a des sourires, ça c'est... même avant d'avoir enlevé la sonde.
Vous avez gagné. On va poursuivre cet échange avec vous, docteur Jean-Charles Halimi. On va bien sûr parler de ces missions de terrain avec votre fondation Mère du Monde en Santé. On va parler prévention, réparation, intégration. Et on part tout de suite. Une première illustration, on part au Nigeria.
Priorité santé sur RFI.
Tout au nord du Nigeria, l'état de Jigawa, la ville de Jaoun. On a eu du mal à vous avoir, hein, docteur Kadri Alzouma. Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous parler.
Bonjour, cher auditeur.
Vous êtes obstétricien pour Médecins sans frontières à l'hôpital général de Jaoun. Alors, on va dire, on l'a compris, hein, il faut intervenir sur plusieurs terrains. Docteur Alzouma, vous agissez à différents niveaux, de la prévention à l'urgence chirurgicale. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de femmes prises en charge dans un établissement comme le vôtre pour ces suites d'accouchement ou plutôt de non-accouchement?
Merci beaucoup, de m'avoir donné la parole. Je suis effectivement à l'hôpital général de Jaoun. En fait, nous intervenons dans une structure de l'hôpital de MSF OCP France. Mm-hmm. Actuellement, chaque fois, nous avons une équipe de prise en charge de cas de fistules. Nous intervenons également dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la prise en charge des urgences obstétricales. C'est vrai, par mois, nous pouvons faire prendre en charge plus de 800 cas de césarienne et d'autres poursuites.
Alors, ce qui est dommage, c'est que juste quand vous avez dit le chiffre, docteur, la ligne s'est brouillée. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce chiffre?
Oui, en fait, ce qui concerne les urgences obstétricales, nous avons en moyenne par mois 600 interventions que nous faisons. Et pour ce qui concerne les cas de fistules, en moyenne, par mois, nous pouvons opérer plus d'une quarantaine. Environ 45 en moyenne.
45, c'est quelque chose de très, très important. Hein. Et la plupart des femmes concernées, on imagine, elles ont accouché au village, à la maison. Est-ce qu'elles avaient vu, dans la plupart du temps avant, une sage-femme, une infirmière, ou pas du tout, elles n'étaient pas passées par un agent de santé?
Oui, en ce qui concerne les fistules, en fait, il faut dire que l'épidémiologie de ces femmes, effectivement, quand vous prenez, c'est des femmes qui viennent dans des zones reculées, avec ce qu'on appelle des barrières socio-culturelles, souvent barrières financières, et à savoir, on a un taux d'accouchement à domicile qui est un peu élevé. Mm. Il faut noter que tous nos cas, quand même, sont d'origine obstétricale, comme mon prédécesseur l'a dit. Des femmes qui ont essayé d'accoucher à domicile, qui ont fait 3 jours, souvent la majorité des cas. Et nous avons aussi des 3 jours d'accouchement à domicile, qui viennent avec des complications et qui ne sont pas en train de faire la tâche. Souvent aussi, nous avons quelques cas, où c'est des pratiques néfastes que nous rencontrons au niveau de la société que nous sommes en train de prendre en charge.
Vous disiez des centaines de cas d'urgence, des dizaines de cas de fistules. D'où viennent les chirurgiens qui pratiquent les opérations de réparation?
Voilà, en fait, il faut dire qu'ici, sur notre projet, ce qu'on fait, on a un groupe de chirurgiens spécialisés en prise en charge de fistules. Mmh. Ils font le tour chaque 2 semaines, ils sont au niveau des chirurgiens nationaux. Ils font chaque 2 semaines qu'ils viennent, qui opèrent les patients qu'on recrute. Et également, nous avons des missions de chirurgiens MSF. Maintenant, avec ce problème d'insécurité, maintenant, le projet est profilé. Mmh. Et quand même, nous attendons un chirurgien qui va venir incessamment de MSF vers le 15 février. Qui va aussi, nous avons recruté des femmes pour lui. Et nous allons les opérer chaque matin. Tant qu'il est là, il va faire 2 mois avec nous en train d'opérer chaque jour des patients.
D'accord. Voilà. Et en termes d'implication au niveau local, quand vous faites de la sensibilisation, ça se passe comment au niveau des chefs de village, des représentants religieux? C'est quoi les réactions? On dit on n'a pas envie d'en parler, de vos histoires de fistules, ou à l'inverse, on nous dit plutôt merci d'aider les femmes et on va justement vous mettre en relation, on va vous permettre d'accueillir ces femmes à l'hôpital?
Effectivement, ici... Parmi nos activités, nous avons ce qu'on appelle les activités d'outreach, outreach et du, comment on appelle, le public health, promotion, c'est que de la promotion...
Promotion de la santé publique, oui. Information, sensibilisation.
Voilà. Donc, nous avons des équipes qui vont chaque matin au niveau au sein des communautés, parce que nous intervenons au niveau de 4 bimons, ils appellent ça bimons, ça veut dire primary health care. Donc voilà, c'est que nous appelons couramment en français des centres de santé intégrés. Donc nous avons des équipes qui vont au niveau des communautés, effectivement, qui rencontrent des communautés, qui rencontrent les leaders d'opinion, le groupement de femmes, les leaders religieux, effectivement. Donc chaque fois, nous partons quand même, la population écoute, ils apprennent, parce que nous aidons effectivement dans le cadre de l'intégration des femmes. Donc, chaque matin, il y a des thématiques que nous développons ici, et actuellement qui est en train de prendre effet. Et actuellement, nous sommes en train de partir vers une implémentation même d'un projet phare, à savoir augmenter la planification familiale, le taux d'acceptation de la planification familiale qui est en train de donner des résultats probants.
On comprend bien planification familiale parce que l'information en termes de santé sexuelle et reproductive, c'est aussi une étape de cette prévention. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Nos excuses pour la qualité de la ligne, mais quand on téléphone au nord du Nigeria, ce n'est pas forcément évident. Merci Dr Kadri Alzouma d'avoir été en ligne avec nous. J'imagine que vous avez retrouvé, Dr Jean-Charles Halimi, un certain nombre de caractéristiques que vous rencontrez quand vous allez vous-même en mission sur le terrain. Par exemple... recruter les femmes, aller chercher ces femmes dans les villages, ça veut dire aussi travailler avec toutes les autorités locales.
Oui, alors, bien sûr, les autorités locales dans les villages, alors c'est souvent des autorités religieuses, ou bien l'instituteur, enfin, des gens qui ont un pouvoir dans le village, qui sont écoutés et qui sont au courant que dans tel endroit, il y a une femme qui est isolée, qui va aller voir. Et après, il faut convaincre, parce que moi, je trouve qu'il y a un travail qui est important. Lorsqu'on n'est pas confronté à la chirurgie, quand on n'a pas eu d'examen préalable, quand on ne sait pas ce qui nous attend, il faut convaincre. Et je trouve que c'est bien fait, c'est très bien fait. Et par les gens qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Hein. Et puis, donc, ils sont capables de faire ce travail-là.
Parce qu'il faut trouver les mots, ce n'est pas évident.
Ils sont trouvés, probablement puisqu'on voit arriver les femmes. Alors, et quand elles arrivent, elles ont bien compris ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles vont être opérées, etc. Je reviens à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Vous m'avez demandé quelle équipe venait. Et je vous ai répondu que sur le matériel, mais il y a aussi des humains.
Les humains, oui.
Et les humains, donc, nous partons avec en moyenne 2 chirurgiens, voire 3. Un senior qui connaît bien la fistule. Et on essaie de former. Mmh. De former à la fois des Européens et des locaux. De telle manière qu'on soit reproductible dans le temps, petit à petit, en sachant qu'on a une gradation dans la formation à la chirurgie de la fistule. On commence par apprendre à traiter les fistules simples pour aller de plus en plus vers le traitement des fistules complexes, qui est un gros problème.
Complexe, ça veut dire récidivantes, qui reviennent après un certain temps.
C'est ça. On arrive quelquefois à opérer des patients qui ont déjà eu 4, voire 5 interventions. Et donc, c'est terrible, c'est très difficile.
Pourquoi? Parce que la peau est tellement abîmée qu'il n'y a plus de cicatrisation?
C'est ça. Plus on opère, plus les tissus sont fibreux, plus il est difficile de les réparer.
Ça veut dire que si jamais il y a des gens qui peuvent faire la médiation par rapport à des femmes qui sont concernées, on ne sait jamais, qui nous écoutent dans certains coins d'Afrique subsaharienne, ça veut dire leur dire, si jamais vous êtes concerné, plus tôt l'intervention interviendra, plus tôt les chances de succès seront là ou pas vraiment?
Non. C'est surtout, il faut que le primo-traitement soit très bien fait. Parce que si vous faites...
Quand vous
opérez une fistule pour la première fois, qui n'est pas trop complexe, vous avez 90 à 95% de succès. Donc la patiente repart sèche chez elle.
Elle est bien parlante, cette expression. Hein. Ça veut dire qu'on arrive, on retrouve sa propreté. Hein,
exactement.
Ce que cherchent toutes les mamans avec les bébés, hein, que le bébé soit au propre, soit sec. C'est pareil pour une
exactement.
Adulte.
Exactement. La femme retrouve du jour au lendemain. Donc ça, c'est très bien. Lorsque la fistule a déjà été opérée, Donc, c'est plus complexe à traiter, c'est plus long. Et le taux de réussite passe de 90% à 50-60%. Donc, ça explique qu'il y a des multiples récidives. Et que, donc, il est très, très important de la très bonne formation des chirurgiens dans la première intervention.
Alors,
je continue le matériel humain parce qu'on part trois chirurgiens.
Il a manqué les infirmières aussi.
Deux anesthésistes, il ne faut pas oublier les anesthésistes aussi. Et puis nous avons en général deux à trois infirmières et un logisticien, que c'est très important pour nous d'avoir un logisticien qui va s'occuper de tout l'encadrement dont nous ne pouvons pas nous occuper.
J'ai une question peut-être un petit peu personnelle. Des infirmières, j'imagine un certain nombre de femmes, comment elles réagissent quand elles voient leur père, P-A-I-R-E-S, dans de telles situations de désespoir? Il doit y avoir quand même des situations absolument terribles. Quand on a la chance, nous, d'accoucher en toute sécurité, confortable, avec toute l'équipe nécessaire, toute l'hygiène nécessaire, et qu'on voit ces femmes qui ont été subies, on dit le plus beau jour de la vie, l'accouchement, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Mais là, une véritable séance de torture. Comment elles réagissent?
Alors, les infirmières qui viennent avec nous, si elles sont habituées à venir, c'est pas pareil. Mais quand on arrive pour les premières fois, il y a des larmes et de la joie. Il y a les deux. En fait, c'est un mélange. Au départ, on arrive, on est terrorisé d'abord de voir ce qu'on voit, et puis de la tâche qui est derrière. Et puis quand on voit le résultat immédiat, tout d'un coup, ça devient, et puis ça donne envie de revenir.
Alors, il y a des auditeurs de l'émission qui réagissent à notre sujet. Par exemple, Jérémy, qui écoute Priorité Santé en RDC à Lubumbashi, il reconnaît que les personnes atteintes de fistules sont marginalisées et il demande tout simplement, est-ce que la guérison totale est possible ?
Absolument.
Absolument.
Ah oui, c'est le but. C'est le but de l'intervention, c'est la guérison totale. Ce n'est pas une guérison partielle, ça n'existe pas d'ailleurs.
Alors, une autre question, toujours sur Facebook, cette fois c'est Karine de Côte d'Ivoire. Elle demande si, après une fistule obstétricale, on peut retrouver une sexualité normale, docteur Jean-Charles Halimi.
Oui.
Mais par contre, un message important, il faut laisser le temps de cicatriser. Et ça, c'est essentiel. Quand les femmes retournent dans les communautés, s'il y a un message à faire passer à tout le monde, c'est laissez-les tranquilles.
Exactement.
Voilà.
Alors oui, on peut retrouver une sexualité normale. Il est clair que lorsqu'on a des fistules qui sont multi-opérées, qui sont beaucoup plus complexes, la sexualité peut être plus difficile parce que les tissus sont fibreux. Mais on fait en sorte de reconstituer un vagin qui soit correctement fait, qui puisse permettre des rapports sexuels. Donc, dans la grande majorité des cas, la vie sexuelle est tout à fait possible et tout à fait normale.
Docteur Halimi, on va vous retrouver juste après ce titre de Mélissa Lavaux, Lilith. Chosen airlines, her love lives well beyond the tomb. Priorité Santé sur RFI, on parle aujourd'hui de la prévention, de la réparation de la fistule obstétricale. Toujours avec nous, le docteur Jean-Charles Halimi, urologue à Toulon, membre de la Fondation Mère du Monde en Santé. On a entendu cette réparation des missions mobiles, travail au cœur de la communauté avec des équipes spécialisées. Mais tout cela, docteur Jean-Charles Halimi, il ne faut pas l'oublier, tout cela a un coût. Comment ça se passe ?
Alors, nous, on est une petite structure, donc ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous bénévoles. Autrement dit, il n'y a pas d'argent qui est dépensé autre que pour le traitement de la fistule. Alors, une mission, comme je vous l'ai dit, on part une dizaine de jours, on opère en moyenne 15 patientes, dont souvent des complexes, et on a un budget que l'on estime entre 12 000 et 15 000 euros. Ce budget nous permet de traiter 15 patientes, donc on est à peu près à 900 à 1000 euros par patiente, sachant que quand on parle de coût, on parle de la totalité du traitement, c'est-à-dire ça va du traitement de la fistule à l'hospitalisation des patientes qu'on prend en charge, à leur nourriture, à leur recrutement préalable, leur transport.
Ça ne paraît pas énorme par rapport à l'ampleur de la tâche.
Il faut aussi compter le déplacement, les avions, l'hôtel, enfin tout. Mais on arrive à avoir des prix corrects parce qu'on a les avionneurs qui nous sont sympathiques. On a du matériel qui est lourd, mais on a pas mal de donateurs de matériel, avec des laboratoires particulièrement qui sont intéressés. Et donc on arrive à avoir des coûts relativement serrés et donc une production qui est tout à fait correcte.
Et pour les femmes, elles doivent payer ? Comment
ça
se passe ?
Non, rien,
tout est gratuit, tout est gratuit.
C'est nous qui prenons en charge.
Alors, je vais vous redonner la parole, mais on va tout de suite partir, donner la parole à un de vos confrères au Burkina Faso. Sinon, il n'aura pas suffisamment le temps de s'exprimer. on l'entend tout de suite.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et c'est vous, docteur Dieudonné Ouédraogo. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien responsable du pôle mère-enfant à l'hôpital Chifra. Vous êtes aussi chirurgien de la fistule obstétricale. On parlait tout à l'heure des chiffres dans cet hôpital du nord du Nigeria. Est-ce que vous avez des chiffres, docteur, sur la prévalence de la fistule dans votre pays, le Burkina ?
Oui, nous avons des chiffres. Seulement, les chiffres récoltés sont bien loin de la réalité. À titre d'exemple, en 2021, l'UNFPA a colligé 1186 cas de fistules obstétricales et, comme je le disais, bien loin de la réalité.
Avec corriger, ça veut dire des interventions chirurgicales ?
Oui, des interventions chirurgicales.
Ça veut dire que, malgré tout cela, il y a dans les villages des femmes qui ont ce problème, qui restent avec leur problème et qui ne sont pas formellement identifiées ou comptabilisées.
Oui, vu que c'est une maladie qui est plutôt vue comme honteuse et cachée, ces victimes n'ont pas forcément accès à l'information et beaucoup ignorent que c'est une maladie qui peut être réparée.
D'autant plus qu'il y a un certain nombre de croyances locales qui un petit peu attribuent des valeurs mystiques à ce traumatisme gynécologique, alors que bien évidemment, vous le savez en tant que gynécologue obstétricien, c'est bien sûr la nature, la forme de l'accouchement, l'importance de, par exemple de la tête du bébé par rapport au bassin de la maman qui est en cause, et pas du tout des causes mystiques.
Bien sûr, ce n'est pas des causes mystiques. La fistule s'explique par un accouchement qui est difficile. Lorsque la tête du fœtus s'engage dans le bassin de la femme, alors plus cet engagement dure, il y a une compression des tissus mous qui finissent par perdre vie, je veux dire qui ne sont plus irrigués par le sang. Et il y a une ischémie qui va se créer et ensuite la nécrose et la chute des scars qui donnent place à la fistule. Donc ça s'explique aisément.
Ça s'explique très, très simplement et c'est toujours mieux de rappeler à plusieurs reprises comment se constituent ces fistules. On va poursuivre notre échange, mais il y a une question qu'a posée une auditrice du Cameroun, c'est Karel. C'est important de l'écouter parce que ça montre aussi qu'il y a un certain nombre de fausses croyances qui circulent, y compris chez les femmes, sur ce problème de santé au féminin. On écoute tout de suite Karel sur le répondeur de l'émission.
Bonjour Priorité Santé, bonjour RFI, je suis Karel, j'ai 25 ans. Déjà j'ai deux accouchements et les deux grossesses, je me suis retrouvée avec des déchirures, j'ai été recousue. Et j'aimerais savoir si à la longue, avec ces multiples déchirures, je ne vais pas me retrouver avec des fistules obstétricales. C'est ça un peu mon inquiétude.
Docteur Ouédraogo, alors cette auditrice, hein, Karel, qui s'inquiète des conséquences des déchirures lors de l'expulsion des bébés, est-ce qu'il s'agit de complications bien distinctes, hein, de la fistule obstétricale? Déchirure, fistule, c'est pas la même chose du tout.
Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais l'un peut entraîner l'autre. Alors, la déchirure dépend du degré de déchirure, de jusqu'où la déchirure va. Quand vous avez une déchirure périnéale complète qui va jusqu'au rectum, comprenez que si la réparation n'est pas bien faite, elle peut laisser place à un trou, j'utilise des termes simples, à un trou qui va faire communiquer le rectum au vagin et de ce fait, la patiente peut perdre des selles de façon incontrôlée par la suite.
Mais il ne s'agit pas à proprement parler de fistule, c'est une déchirure complète, on va dire.
C'est une déchirure qui peut se réparer, ça arrive très souvent, mais qui peut se réparer au cours de l'accouchement. Juste.
Et la différence aussi qu'on entend en plus dans la question de cette auditrice Carrel, c'est qu'à chaque fois qu'elle a eu une déchirure, elle a été recousue. Donc ça veut dire que déjà cet accouchement s'effectuait dans un cadre médicalisé et sécurisé, et c'est déjà la première solution pour éviter ce type de complications très graves. Quand on accouche avec une sage-femme, quand on accouche dans une maison de santé, on est déjà beaucoup plus sécurisé et c'est déjà le meilleur moyen d'éviter la fistule.
Oui, bien sûr, et je peux rassurer cette dame qu'elle n'a pas de fistule, sinon elle aurait déjà eu des signes, puisque sa déchirure a été prise en charge juste immédiatement après l'accouchement. Et une fois qu'elle n'a pas senti des signes, elle n'a pas eu des pertes incontrôlées, le risque de faire une fistule n'est plus. C'est peut-être à un prochain accouchement que cela peut arriver, mais pas maintenant.
Ça n'arrive jamais après, quand le bébé est là, quand l'accouchement s'est bien passé, il n'y a pas de risque après d'une apparition comme ça, d'une fistule, ça n'a strictement rien à voir. Docteur Ouédraogo, en termes de chirurgie mobile, est-ce qu'il y a encore des missions avancées, par exemple en zone reculée, où ce n'est pas vraiment aujourd'hui à l'ordre du jour au Burkina?
Alors, il y a toujours des missions, mais disons que ces dernières années, avec
On
l'insécurité,
comprend
les
bien, oui.
missions se font rares. Et les seules missions qui se font, c'est vraiment dans des hôpitaux assez bien équipés. Nous, à notre niveau, nous le faisions avant, on partait en milieu rural. Mais on a décidé de ne plus trop sortir parce qu'on a remarqué que la prise en charge après les interventions était un peu moins efficace par rapport au milieu hospitalier où nous y sommes.
Alors, cette prévention, parce qu'on a parlé de la réparation jusqu'à présent, la prévention, est-ce que vous avez, on va pas dire des trucs, mais des méthodes, des stratégies pour faire passer un message efficace auprès des communautés où les femmes sont susceptibles d'être menacées de la fistule?
Oui, disons que au niveau du Burkina Faso, ici, il y a déjà des structures communautaires qui sont impliquées dans la lutte contre la fistule obstétricale. Et c'est des sensibilisations pour encourager les femmes à faire suivre déjà les grossesses, pour identifier les accouchements qui sont susceptibles de se compliquer et les référer à des hôpitaux qui ont un plateau technique plus évolué. Et aussi démystifier la fistule pour que les gens comprennent que c'est une maladie qui survient, pas parce que la femme n'a pas respecté une coutume ou qu'elle est punie pour quelque chose. Et de sorte que les gens puissent bénéficier des soins adéquats pour empêcher la fistule de survenir.
Docteur Ouédraogo, est-ce qu'il y a un critère d'âge? Est-ce que vous observez une prévalence, une fréquence de la fistule beaucoup plus souvent chez les jeunes filles que chez les femmes, voire chez les femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants?
Oui, il y a une question d'âge parce que chez des patientes qu'on a vues tout récemment, qui avaient 14 ans, 15 ans à leur première grossesse, et qui n'avaient pas aussi une morphologie adaptée à l'accouchement, on comprend que dans cette tranche d'âge, il y a beaucoup plus de fistules qui surviennent. D'autant plus que ces populations sont en milieu reculé et n'ont pas accès vraiment à des soins de qualité.
Ça veut dire que ça passe aussi par la lutte contre les mariages forcés, les grossesses précoces, les droits des femmes, tout ça, ça va ensemble. Droits des femmes, droits à la santé. On vous remercie beaucoup, docteur Ouédraogo, d'avoir été en ligne avec nous d'Ouagadougou. Docteur Jean-Charles Halimi, on arrive à la conclusion de notre échange. On a bien perçu hein, à quel point il est primordial que cette prise en charge elle soit à plusieurs niveaux. Il y a la prévention, il y a la réparation, la réhabilitation. Comment ça se passe justement sur ce plan post-opératoire ? Le retour, la réintégration communautaire, j'imagine que là, c'est laissé à la communauté, mais quand même, vous suivez des fois des parcours de retour au village ?
Alors, oui et non. Lorsque on avait des missions structurées, parce qu'actuellement, c'est très compliqué d'avoir des missions structurées, on a une politique qui consiste à dire on va faire 2, 3, 4 missions par an, et par conséquent, la mission suivante est chargée de s'occuper de ce qui a été fait en amont, de revoir les patientes qui ont des problèmes ou pas, et de savoir comment elles ont été réintégrées dans la société. Bon, ça, c'est une bonne façon de travailler. Actuellement, quand on fait des missions, elles sont ponctuelles et on a beaucoup plus de difficultés à avoir des retours. Mais en général, on a sur place des médecins qui sont chargés de surveiller les fistules, téléphoner, parce que grâce au mobile, maintenant, elles sont faciles d'accès, ça, c'est très important. Et puis, en cas de complication, de les revoir. Donc, en gros, il y a une politique de suivi et de réinsertion sociale par les organismes locaux ou internationaux.
Donc, on ne s'arrête pas quand la femme sort du bloc. Un dernier message, il nous reste une cinquantaine de secondes, justement, parce que je pense qu'il y a encore des choses que vous avez en tête et que vous voulez faire passer.
Ben, ce qu'on aimerait, évidemment, ce n'est pas à nous de parler de la prévention, c'est un problème qui est politique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir traiter le maximum de fistules, de pouvoir retourner dans les pays pour pouvoir les réparer et avoir éventuellement, et ça, je fais passer un message aux organismes que ça intéresse. On est une équipe performante, on a du matériel, on a tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous trouver.
Eh ben, le message est bien passé. Merci, docteur Jean-Charles Halimi. On mettra bien sûr le lien de la Fondation Mère du Monde en Santé sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Et on parle maintenant de la santé des yeux avec des projections qui laissent envisager une véritable épidémie de myopie, un enjeu de santé publique à venir. Pour en parler en ligne avec nous, docteur Gilles Martin, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes ophtalmologiste et ophtalmopédiatre à la Fondation Adolphe de Rothschild. Alors, ces chiffres, ces prévisions en termes de santé, elles estiment que la moitié de la population mondiale sera myope à l'horizon 2050. Qu'est-ce que c'est, les explications, quand on voit cette tendance qui est très très inquiétante ?
Eh bien, on sait qu'il y a une grosse part de tout ça qui est liée d'une part à des facteurs héréditaires. On sait que la génétique entre en jeu puisque lorsqu'on a un parent myope, on a deux fois plus de risque d'avoir un enfant myope. Et lorsque les deux parents sont myopes, le risque il est multiplié par 6. Et on sait que il n'y a pas que cette part génétique, il y a aussi des facteurs environnementaux. Et c'est notre mode de vie citadin, notamment le fait qu'on passe de plus en plus de temps à l'intérieur, sans voir la lumière naturelle et en faisant des activités qui sollicitent plus la vision de près que la vision de loin. Mais on sait que tout ça, c'est un cocktail qui est responsable de cette aggravation de la myopie.
Ça veut dire aussi qu'on peut agir en termes de prévention, on va y revenir. En tout cas, cette tendance à la hausse, est-ce que c'est déjà, vous, quelque chose que vous constatez lors de vos consultations en tant qu'ophtalmopédiatre, donc vous qui voyez les yeux des enfants ?
Oui, tout à fait. On voit de plus en plus de myopie chez les enfants et notamment de plus en plus jeunes. Avant, la myopie, on disait qu'elle se développait surtout au début de l'adolescence, vers 11-12 ans. Et maintenant, on a de plus en plus d'enfants qui, déjà à l'entrée au CP, ont une petite myopie débutante.
Alors, bien sûr, il s'agit d'essayer de freiner, de bloquer cette tendance. Est-ce qu'il y a déjà des programmes qui ont été envisagés, voire même engagés, pour essayer de contredire cette projection ?
Alors, il y a des politiques de santé publique depuis quelques années en Asie, surtout. Hein, où c'est vraiment un problème qui est déjà beaucoup plus important que chez nous. Et donc, ils ont pris en compte cette augmentation de la myopie. Et il y a des vrais programmes pour augmenter les activités en extérieur, limiter au maximum la vision de près. En France, il y a des recommandations qui ont été édictées, notamment par la Société française d'ophtalmologie, et qui recommandent notamment de favoriser au maximum les activités en extérieur, à savoir faire du sport, on dit au mieux 2 heures par jour, tous les jours. Lorsqu'on ne peut pas se passer de faire des activités en vision de près, et bien de faire des pauses. On dit toutes les 20 minutes, reposer ses yeux pendant 20 secondes en regardant au loin, à 6 mètres, on dit. Donc ça, c'est des mesures qui permettent d'éviter l'apparition, ou en tout cas de limiter l'aggravation d'une myopie. Et puis après, il y a aussi des mesures thérapeutiques pour freiner la myopie lorsqu'elle est installée. Et ça va reposer soit sur des gouttes qu'il faut mettre tous les soirs, soit sur des lentilles à porter la nuit, ou alors encore des verres, qu'on dit des verres freinateurs, qui ont été développés récemment et qui pourraient permettre de ralentir cette évolution.
Ça fait penser pas mal à ce qu'on dit en termes de sédentarité. Hein. La sédentarité, les écrans, le cocktail qui tue, chips, canapé, écran. Là, c'est les yeux des enfants qui sont mis à rude épreuve avec, à terme, un véritable risque pour la vision. Parce que c'est important de le souligner, dans une proportion assez importante, la myopie peut entraîner des complications sur le plan de la santé oculaire.
Mais oui, parce qu'une myopie qui débute dans l'enfance, elle va avoir tendance à s'aggraver tout au long de l'adolescence. Et si on atteint des myopies qu'on dit fortes, au-delà de moins 6 dioptries, eh bien, on est plus à risque de faire des complications après à l'âge adulte, à savoir des problèmes au niveau de la rétine, des déchirures, des décollements de la rétine, mais aussi du glaucome qui abîme le nerf optique, ou encore des cataractes précoces. Donc tout ça, c'est des complications qui sont favorisées par une myopie forte.
Et comment faire passer le message? Parce que, évidemment, tout ça se dessine très tôt dans la vie. Ça veut dire qu'il faut faire passer des messages dans les écoles, auprès des pédiatres, parce que tous les parents ne conduisent pas forcément les enfants en consultation chez un ophtalmo, d'autant plus que pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas évident.
Alors, ce qui est recommandé, en effet, c'est de faire des dépistages réguliers et de programmer des bilans avant l'entrée à la maternelle, puis avant l'entrée au CP et également avant l'entrée au collège, donc 3, 6, 12 ans, qui permettent de vérifier la vision et de détecter une myopie. Et évidemment, dès qu'il y a un doute sur des signes de fatigue visuelle, si l'enfant se rapproche beaucoup de ses écrans, de ses cahiers, s'il a tendance à plisser les yeux, à avoir mal à la tête, tout ça, c'est des signes qui doivent inciter à prendre un rendez-vous pour faire un bilan visuel. Ça, déjà, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, vous avez raison, il faut qu'il y ait des actions au niveau de la santé publique dans les écoles, tout comme on communique beaucoup sur les problèmes nutritionnels. Hein, manger, bouger, etc. Tout ça, c'est rentré un peu dans les mœurs. Mais là, il faut que les pouvoirs publics prennent en compte ces alertes au niveau mondial et intègrent clairement des politiques de prévention, notamment par les activités sportives en extérieur et par une plus grande place à la lumière naturelle dans les écoles.
En s'adressant au public là où il est, au public ciblé. Merci beaucoup, docteur Gilles Martin. Merci d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. Assez tous à maquer. Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain, on va parler des accompagnants des patients hospitalisés. Comment améliorer l'accueil de ces proches qui soutiennent au quotidien les malades? On parlera bien sûr des carences, mais aussi des initiatives. On se retrouve en direct à partir de 9h10, temps universel. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans vos projets de vie avec ses produits d'épargne.